Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on passe tout de suite aux infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Rémi, on commence avec le jugement du jour.
En France, refuser de donner son code de téléphone portable aux autorités judiciaires est un délit. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation. À l'origine de cette décision, une affaire de drogue. Un homme interpellé en possession de cannabis avait refusé, durant sa garde à vue, de donner les codes de ses deux smartphones qui auraient pu servir au trafic. À deux reprises, la justice lui avait donné raison sur ce point avant que la Cour de cassation ne tranche donc définitivement. L'individu devra donc être rejugé pour ne pas avoir donné son code de téléphone portable au policier. Il risque 3 ans de prison, 270 000 euros d'amende.
Est-ce que ça vous choque, Fred Hermel, qu'on demande comme ça des codes de téléphone portable en garde à vue?
Oui, quand vous êtes en garde à vue, c'est qu'il y a des choses à enquêter. Donc oui. Ça ne me choque pas plus que ça. De la même manière qu'il peut y avoir une perquisition aussi, demandée par un juge, c'est une forme de perquisition. Quand on va perquisitionner un téléphone, c'est aujourd'hui peut-être même plus important que la perquisition chez soi. Donc non, je trouve pas ça incroyable.
Ça doit simplement se faire dans un ensemble de conditions. Par exemple, ouvrir ton coffre de voiture, ça ne peut être fait qu'en présence d'un.
Bien sûr.
Comme c'est une décision de la Cour de cassation, ça veut dire que c'est une décision qui est rendue sur la forme et pas forcément sur le fond.
Oui,
donc il faudra attendre de voir au moment du rejugement comment ça va se passer. Moi, ça ne me choque pas non plus. Je dirais que si on n'a pas grand-chose à se reprocher, on donne son
enfin, moi, ça m'embêterait si j'ai rien à me reprocher.
Excusez-moi. Si vous êtes impliqué dans un trafic de manivelle de voiture, par exemple, le policier veut enquêter, il veut voir si dans votre téléphone, vous avez lancé une pétition sur les manivelles.
Oui, oui.
C'est la loi.
Mais j'arrive pas à la signer, donc c'est quand même très embêtant. Donc voilà, mais enfin, cette pétition existe, en tout cas, pour le retour de la
manivelle. À partir du moment où il y a une enquête, toutes nos vies aujourd'hui, toutes nos données sont dans ces téléphones. Je me dis, mais une enquête qui n'a pas accès à ton téléphone, elle a accès à quoi?
C'est
comme ils ont accès à tes comptes bancaires. Avant, tout ça passe par des autorisations de préfecture, etc. C'est très encadré.
En France, en plus, on a une vraie grande démocratie où la police ne peut pas faire n'importe quoi dans ta vie.
Et puis, je vous rassure, les criminels, ils ont maintenant des systèmes avec des cartes qui cassent après, des téléphones qui ne servent qu'une fois. Donc, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose.
Ils ne mettent pas leur date de naissance en code. Ça voulait dire.
C'est ça.
Le mea culpa du jour.
Mea culpa de Sepp Blatter. Dans une interview publiée par les titres du groupe suisse Tamedia, l'ancien président historique de la FIFA dit regretter l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Pourtant décidé durant son mandat, l'ex-dirigeant pense désormais que le football et la Coupe du Monde sont trop grands pour cela.
Mais Fred Hermel, c'est quand même extraordinaire.
Quand j'ai lu ça.
On rappelle que évidemment Sepp Blatter a milité pour la Coupe du Monde au Qatar. Enfin, il y a eu un procès, etc. Enfin bon, et dire ça aujourd'hui, et c'est quand même.
Mais il aurait dû se taire. Parce que là,
il a un certain âge, c'est Sepp Blatter.
Mais là, je n'excuse pas tout.
Oui, mais là, quand même, il a un
avantage. C'est la tartufferie à son plus haut niveau, et c'est de la tartufferie très très chère, parce qu'il a gagné beaucoup beaucoup d'argent à la tête de la FIFA. Donc c'est pas que ça frôle l'indécence, ça dépasse l'indécence, quoi. Il est le principal responsable de l'attribution de cette
Coupe du Monde
au Qatar. Et maintenant, il vient dire, peut-être trompé, là.
C'est ce qu'on appelle cracher dans la soupe de caviar, quoi, parce qu'il a dû quand même en manger une sacrée soupe.
On
est d'accord.
Oui. Donc c'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot. Il est tartuffe.
On va passer au succès du jour.
Le Puy du Fou, parc d'attractions vendéen réputé pour ses fresques historiques, a accueilli 2 334 000 visiteurs en 2022. C'est un record, ça tombe bien, historique, depuis la création du site par Philippe de Villiers en 1977.
Ça, c'est justifié, ce succès, pour vous, Emmanuel Dancourt?
Il y a que moi qui suis allée au Puy du Fou sur ce plateau.
Moi, j'y suis jamais allée. D'accord.
Moi, je suis vendéen, donc j'y ai.
Moi, j'ai envie d'y aller. Non, mais moi, j'y suis allée deux fois. C'est magnifique. C'est somptueux. J'y étais allée au tout début quand ça ressemblait pas encore à grand chose. Ça fait plusieurs années d'affilée qu'ils sont meilleurs parcs du monde. Hein.
Oui.
C'est pas pour rien. Quoi qu'on pense de la reconstitution, du sens qu'on fait de l'histoire, etc. Moi, je parle tu débarques avec des enfants.
Il y a quand même une petite revisitation de l'histoire.
Mais cela dit, quand tu es dans le stade romain et qu'ils te refont une scène romaine, donc toi, tu es le public romain, c'est avec les tigres, les lions, les chars, c'est hallucinant. Et tous les spectacles sont magnifiques. Voilà, c'est un endroit assez extraordinaire en immersion d'ivoire, Thierry.
Et puis,
après, un petit bémol. Moi j'ai connu la Ciné Scénique, on n'y avait que le spectacle projeté sur le château, il n'y avait pas le parc.
Tout à fait.
Et j'ai trouvé qu'à l'époque, l'histoire était très revisitée. C'est-à-dire que
les
personnages.
Tu parlais du parc, hein, je parlais pas de la Ciné Scénique.
Les personnages contestés étaient mis en valeur, c'était un petit peu compliqué. C'est aujourd'hui devenu un parc qui a un rayonnement international, puisqu'ils vont même en ouvrir à l'étranger. Donc c'est très bien.
Mais
ne jamais oublier que l'histoire a été un petit peu tordue par les promoteurs de ce parc qui sont très marqués politiquement.
Oui, on accepte que l'histoire soit marquée politiquement quand elle est de gauche, mais quand c'est une vision de droite,
je dirais pareil.
Voilà, donc automatiquement, l'étude de l'histoire, elle est politique. Il n'y a pas de neutralité dans l'étude de l'histoire. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est un modèle. En Espagne, c'est un succès phénoménal. C'est-à-dire que ce parc s'exporte. Et puis moi, ça me rassure. C'est-à-dire que les Français ont encore envie d'apprendre des choses sur l'histoire.
Ils adorent l'histoire de France.
Les Français adorent leur histoire. Du plaisir dans un divertissement sur l'histoire. Je trouve ça un signe d'espoir absolument extraordinaire. Donc, bravo le Puy du Fou.
Les aveux du jour.
Le président de la conférence des évêques de Lourdes a révélé hier que 10 anciens évêques ou évêques toujours en activité sont mis en cause devant la justice civile ou devant celle de l'église pour des signalements de violences sexuelles. Parmi eux, l'influent cardinal Ricard, ancien archevêque de Bordeaux, notamment concerné. Donc, il est notamment concerné. Il a reconnu une conduite répréhensible sur une mineure de 14 ans. Et là, il y a quelques instants, on a appris d'ailleurs qu'une enquête préliminaire était ouverte par le parquet de Marseille et que l'évêque, le cardinal Ricard, qui lui-même avait saisi la justice en octobre dernier.
Avoir votre avis là-dessus.
Alors oui, les téléspectateurs le savent pas forcément. J'ai travaillé très 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 longtemps sur une chaîne qui s'appelle KTO, qui est la chaîne confessionnelle catholique où je faisais la seule émission non catho de la chaîne. Mais je suis quand même très très bien renseignée sur ces histoires-là. Moi, les bras m'en tombent. Le cardinal Ricard, les gens le savent pas forcément. C'est un des grands pontes de l'Église. On a parlé du cardinal de Monseigneur Santier aussi, qui était évêque en Vendée d'ailleurs, Thierry, qui faisait des strip confessions. Alors ça peut faire rire, moi ça me fait pas rire du tout. C'est des gens que j'ai interviewé, c'est des gens que j'ai rencontrés et en même temps les bras m'en tombent, en même temps il y a un hashtag qui est sorti chez les catholiques qui s'appelle hashtag sortons les poubelles, avec quelques catholiques qui essayent de manifester en disant mais c'est quoi cette église, on ne veut pas de ça, nettoyer, mais ils nettoient. J'ai envie de dire, ils nettoient. Et il y a d'autres institutions qui ne nettoient pas. Pas très vite, mais ils le font. Pas très vite, on est d'accord. Et ça signe peut-être une partie de l'échec de Vatican II. Tout ça va être analysé.
Mais
et je suis d'accord.
C'est ça qui me gêne. Ce qui me gêne, moi, souvent, c'est que ces gens-là ne sont pas traduits devant la justice des hommes, mais on les met dans un monastère. J'ai vu qu'il y en avait qui avait été relégué pour être confesseur dans une communauté de religieuses âgées.
De vieilles religieuses, bien sûr. C'est
non, je suis désolé. La justice des hommes.
Je suis d'accord, il faut absolument que la justice des hommes passe dessus. Ouais. Et ce qui est coupable, c'est le silence de l'Église. Et ça, c'est inadmissible.
Il y a quelque chose qui s'est passé, ça s'appelle la commission Sauvé. Jean-Marc Sauvé, un laïc, quelqu'un au-dessus de tout soupçon, qui a révélé des chiffres incroyables, qui sont aussi un peu contestés. Mais bon, mais il y a un vrai travail de nettoyage au sein de l'Église. C'est une réalité.
Et j'aimerais... Il faut que ça aille plus vite.
Il est très lent.
Il faudrait que ça aille plus vite aussi dans l'éducation nationale. Parce que les histoires de profs convaincus de pédophilie qui ont été nommés dans d'autres... d'autres régions, ça existait aussi.
C'est un autre problème.
Mais je veux dire que
c'est pas parce qu'il y a un autre problème à côté qu'on parle
d'église. Il n'y a pas que l'église. Il y a des problèmes de pédophilie. On parle d'institutions. Donc l'église, c'est lent, mais l'église est en train de faire un travail énorme.
Il y a une omerta dans l'église qu'il y a nulle part ailleurs. Je suis désolé.
Qui y a dans l'éducation nationale, qui y a dans les camps de vacances. Mais bien sûr que si.
Il y a un problème avec l'église de France. Il y a eu un vrai problème.
Si,
aux États-Unis, en Irlande, en Espagne, en Amérique latine, ça fait des années que le travail a été fait.
La commission Sauvé, c'était il y a un an, quasiment jour pour jour.
Oui, ça fait 10 ans que c'est fait aux États-Unis.
Mais non, mais aujourd'hui, on parle de ça. parce que l'Église est en train de faire le travail. Elle commence. Bien sûr qu'elle aurait dû le faire avant, bien entendu. Mais sauf que il y a cette commission sauvée, elle est.
Tu pourrais admettre que l'Église de France a eu du retard par rapport aux autres églises.
Elle a eu du retard, sauf qu'elle le fait. Et beaucoup d'associations en France ne font pas ce travail.
Heureusement qu'elle le fait. Avec toutes les
associations qu'il y a eu. Mais heureusement.
C'est très choquant. C'est que, effectivement, c'est tardif. Ça a le mérite d'exister. Tu as raison, Fred. Mais c'est tardif. Et surtout, l'Église a essayé de se protéger au maximum. Au détriment des victimes. Au détriment des familles. Il y a plein d'affaires qui sortent partout. L'Institut Saint-Gabriel, encore en Vendée, ça sort aussi.
Encore en Vendée?
Oui, c'est très catholique.
Même des gens du Renouveau Charismatique qui devaient être.
Je donne la parole, je suis après Thierry, mais juste toutes les communautés nouvelles, elles ont quasiment toutes, alors je pense appeler ça un MeToo, toutes les communautés nouvelles qui sont nées, donc des communautés charismatiques qui sont nées il y a 40-50 ans, elles ont toutes des problèmes avec leurs fondateurs. Voilà, donc on est tous un peu complètement démunis face à ça. Thierry.
Moi, j'ai appris l'année dernière en parlant avec mon père qui est décédé au moment de son décès que quand il était dans un collège catholique, il avait été tripoté par deux prêtres. Il n'en avait jamais parlé à personne. Je pense que c'est un truc qui est tellement ancien que, tu vois, Fred, je suis d'accord avec toi. Ok, ils y vont, mais ils y vont tardivement. La plupart des témoins seront, les prescriptions seront évidemment dépassées.
On est d'accord.
Et les gens seront morts.
C'est ça.
Donc, c'est pas bien. On est en retard. On est en retard.
Pardon. Ce que je veux dire, plus ils attendront effectivement, moins il y aura de plaintes. Donc évidemment, c'est embêtant. Le jackpot du jour.
Conséquence des prix records de l'électricité, les éoliennes ne sont plus une charge pour les finances publiques. Elles pourraient même générer des recettes exceptionnelles en 2022. Ce sont des chiffres.
Formidable.
Quelques 3,7 milliards d'euros de recettes. Et si les prix de l'énergie restent au niveau actuel, la filière devrait avoir remboursé l'ensemble du soutien public qu'elle a perçu depuis 2003, dès le quatrième trimestre 2024.
Alors, je sais que vous êtes anti-éolienne.
Je n'y crois pas une seule seconde. C'est quoi ces 150 milliards qui est investi?
Mais vous avez vu la hausse des prix d'énergie?
Donc
ils vendent plus cher. Donc voilà, le vent est toujours le même.
Mais bien sûr.
Le vent est le même. Si avant vous vendiez.
C'est pas vrai. Le vent baisse puisqu'en Allemagne cette année ils ont eu un problème de vent. Ça n'a pas fonctionné.
Si aujourd'hui, s'il y a deux ans vous vendiez votre électricité et qu'aujourd'hui vous la vendez 100, forcément vous allez faire plus.
Mais sauf que l'investissement, il est tellement gigantesque qu'il ne sera jamais remboursé. Puisque les éoliennes ne fonctionnent que 25% du temps.
La seule chose qui est rentable aujourd'hui, et on le dira assez, c'est le nucléaire.
Merci Thierry.
Voilà. Ça vient d'où ces chiffres, Rémi?
C'est le ministère de l'économie.
Donc on peut quand même se fier.
Forcément. Tu sais, les chiffres, tu peux les regarder de plusieurs perspectives.
Bien sûr. Enfin, là, c'est le ministère de l'économie.
Je n'y crois pas un instant non plus.
C'est pas possible.
D'accord. Bien sûr. Mais le ministère de l'économie nous gruge.
Ce ne serait pas la première fois.
C'est pas faux. Enfin, moi, je ne veux pas avoir de contrôle fiscal, donc je préfère dire du bien.
Je pense qu'ils ont raison.
Mais moi, je trouve formidable. Tellement rapide.
Ils sont très pratiques.
Ils sont aimables.
Conciliant.
Je les adore. D'une élégance rare.
Ça, c'est fait.
Sur ces bonnes paroles, nous allons arrêter cette émission. C'est la fin des FM Midi.